Je pense que le plus gros problème, ça vient du beurre, où on a des gros problèmes d'approvisionnement de beurre et de production de beurre, même ici au Québec, il y a des soucis, donc
Parce
ça
que
évolue pas.
le... Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
À chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Est-ce que tu as senti, depuis que tu es là, une sacrée différence de niveau dans la pâte feuilletée des pâtisseries?
Ah, pâte feuilletée en général? On va dire que je suis pas un grand, j'allais dire pas grand amateur. C'est pas la chose que je préfère déguster, tout ce qui va être galette, etc. Même si j'adore le faire, c'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose vers lequel je vais tendre quand je vais dans une pâtisserie. Moi, manger à mille feuilles, je suis pas le plus grand fan, même si je trouve ça très bon. Je préfère d'autres produits, mais quand même, je trouve que il y a eu quand même une grosse évolution au niveau du feuilletage dans n'importe quelle boutique où on peut aller, ça a progressé.
Parce que souvent, j'entendais dire que c'était un problème de farine.
Farine et
on
beurre,
disait,
surtout.
Oui, mais il faut que la faire importer presque pour avoir de bonnes.
Non. Mais après, sûrement que les... Moi, c'est ça. Ça fait que 4 ans que je m'y intéresse. Et depuis 4 ans, j'ai trouvé que la qualité des farines était quand même OK. Mais je pense que le plus gros problème, ça vient du beurre, où on a des gros problèmes d'approvisionnement de beurre et de production de beurre, même ici au Québec, il y a des soucis, donc ça évolue pas.
Parce que le beurre de tourrage, c'est un beurre particulier.
Ouais, c'est ça, c'est un beurre particulier, c'est un beurre qui va être plus gras, donc il y a aussi beaucoup moins de pourcentage d'humidité à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est très plastique, il ne se déchire pas. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas qui sont produits ici au Québec, malheureusement.
Alors pourquoi ?
Bonne question. Je sais pas. On a
tout le beurre de tourrage est importé.
Ouais, tout le beurre de tourrage est importé et toutes les compagnies sont aux États-Unis. J'en ai pas vu encore. Il y a beaucoup de Nouvelle-Zélande aussi qui est quand même très qualitatif et il y a beaucoup en Europe.
On sait pas pourquoi. Il y a pas de bon beurre de tourrage ici.
Pas de tourrage tout court.
C'est dû à la pasteurisation.
Normalement, c'est le côté gras en fait. C'est le côté gras du beurre qui va rendre son élasticité et puis c'est toute l'humidité qui va enlever à l'intérieur qui va permettre d'avoir un beurre utilisable, un beurre de tourrage utilisable. Je sais que le beurre de tourrage a entre 13 et 14% d'humidité maximum, mais ici, je pense que le taux est trop élevé. Peut-être pas assez gras. Je sais pas comment ils font pour ne pas en produire, j'imagine que ça doit être une science ou alors c'est...
Peut-être tout simplement c'est que c'est culturel.
Ouais, peut-être.
Pas rentable aussi, peut-être.
Je pense que vu le marché qui commence à y avoir, quand il y a des gens qui prennent plus de presque 1000 kilos de beurre par an, ça pourrait être rentable.
Alors, on lance un appel aux producteurs
s'il vous plaît,
de beurre
parce que on veut faire des produits 100% locaux au Québec, on aime ça, on aime mettre en avant notre terroir et malheureusement on arrive à avoir des farines de qualité mais on est obligé de se tendre vers l'importation pour le beurre alors que je pense que c'est un produit qui peut quand même être accessible assez facilement parce qu'on a de bons produits laitiers, on a de bonnes matières premières mais malheureusement le beurre je ne comprends pas pourquoi. Il y en a qui ont essayé, on en a reçu mais c'était pas du tout ça.
Là, quand tu dis on a reçu, c'était des petits
des compagnies,
des essais, des petites compagnies,
en fait,
des grosses compagnies.
C'est des grosses compagnies, une grosse compagnie du Québec notamment, qui nous a dit oui, on s'est lancé dans le beurre de tourage. Et puis on l'a pris et c'était on a reçu des plaquettes en effet de beurre de tourage. Et malheureusement, on le prenait, on le cassait en deux quoi. Le beurre de tourage, on peut faire un accordéon avec, vraiment, on peut s'amuser. C'est vrai. Moi, quand je le montre dans mes vidéos pour montrer aux gens la texture que le beurre doit avoir. C'était impossible. Le truc, on le prenait, ça se déchirait, ça marche pas.
Juste
pour mettre
avoir
ça en avant.
Un peu une idée, si tu en as une, un boulanger régulier, il utilise à peu près combien de beurre de tourage
Ça dépend des compagnies. C'est un peu difficile à dire, mais je pense qu'il y en a certains qui sont à plus de 1500 ou 2000 kilos par an, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça
c'est
me choquerait
quand même
pas.
Sur
c'est énorme.
Un business.
Sur un business, ouais,
c'est
énorme.
C'est un business au coin de la rue, le gars, il a une boulangerie.
Comme tu disais avant, la viennoiserie, c'est en plein développement.
Ouais, c'est en plein essor,
au Québec,
exactement.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est le temps qu'il y ait des choses qui se... C'est le temps qu'il y ait des fournisseurs qui s'y intéressent.
Ouais, exactement, et qui travaillent un peu sur le sujet, parce que pour nous, ça pourrait être intéressant. Et en plus de ça, voilà, ça peut être mis en avant. Et je pense que les gens au Québec aiment ça, le local.
Ok, donc la farine n'a rien, le beurre, il manque du beurre. Est-ce que les techniques, est-ce que tu utilises la fermentation dans tes techniques? Est-ce que c'est quelque chose, je sais qu'on l'utilise dans le pain.
Ouais, non, un peu moins dans la viennoiserie. Il y en a qui aiment ça, faire partir sur des bases de levain, mais c'est un peu trop. Je dirais, ça demande plus de temps. Et malheureusement, du temps, on n'en a pas tout le temps, donc on va au plus simple. On a de la fermentation quand même la nuit pour pouvoir développer nos produits, pour que les produits poussent bien, etc. Mais on n'a pas. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais travaillé sur ce genre de process.
Donc là, parce que quand tu parles de fermentation, de levure, là, on passe sur le côté croissant.
Ouais, exactement.
Chocolatine. Alors, ouais. Je m'excuse. Merci. Ça m'arrache la bouche de le dire, non, mais bon, non. J'ai un bordelais en face de moi. Un Marseillais, je sais pas ce qu'on dit à Marseille, mais bon, chez moi, on dit pas au chocolat, mais on va pas partir le non, débat. Non, on est au Québec.
Elles sont pain.
Ouais.
On est au Québec, on dit chocolatine.
Exactement.
Donc là, on utilise de la levure.
Ouais,
la levure de boulanger, j'imagine.
Levure boulanger, levure sèche.
Mets dans la détrempe.
Exactement. Levure boulanger, levure sèche.
C'est ça la différence principale entre une pâte feuilletée.
Après, les quantités sont pas du tout les mêmes. Okay. Il y a beaucoup de sucre aussi à l'intérieur dans une pâte. Beaucoup de sucre. Il y a du sucre comparé à une pâte feuilletée où il y en a pas.
Ça, faire agir la levure.
Ouais, exactement. Ça va venir nourrir la levure. Puis bon, ça va donner du goût, ça va donner de la caramélisation, etc. Plein de choses. Les deux recettes, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui peut un peu confondre les deux, mais c'est vraiment un univers complètement différent.
Alors, toi, c'est quoi tes spécialisations du coup ?
Moi, ça va être vraiment tout ce qui va être pâte à croissant, feuilletage, et puis les gâteaux de voyage aussi, j'aime bien ça.
Les gâteaux de voyage,
tout ce qui va être cake, biscuits secs, etc. etc.
Okay. Ouais, parce que maintenant, tu as monté ta compagnie de conseils.
Ouais.
Tu vas conseiller les boulangeries ou les pâtisseries.
Exactement.
Ou même des particuliers, peut-être.
Oui, même des particuliers, ça peut être ça aussi. Donc,
Tu veux apprendre à faire des croissants chez eux, par exemple.
C'est ça. C'est sûr que c'est pas la chose la plus simple, parce qu'à la maison, c'est quand même un autre niveau, là, pour quand même avoir un minimum de connaissances. Encore une fois, j'ai ma rigueur à moi, donc c'est sûr que ma rigueur à moi va pas être la même que certaines autres personnes qui vont juste sortir un croissant et eux vont être très contents. Moi, je vais voir tous les défauts, tous les petits détails qui font que, pour moi, ça va pas être l'idéal. Mais les gens aiment quand même faire ça à la maison. Donc, oui, c'est quelque chose que j'aime faire. Ça peut être aussi former des particuliers. Et puis, après, dans les compagnies, ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être, mettons, ils ont pas assez de temps pour former leur personnel ou il y a un responsable qui vient de partir. Il leur faut quelqu'un pour leur montrer les bases. Ils ont des problèmes avec leur production aussi, une organisation qui va pas.
Ils veulent monter la qualité, tout simplement.
Exactement. C'est sur quoi je suis en train de travailler en ce moment et c'est ce qui me plaît le plus, quoi, parce que j'avais envie de partager ça. Puis encore une fois, les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir une certaine notoriété maintenant là-dessus, d'être un peu plus reconnu, j'ai un peu plus
moins le syndrome de l'imposteur.
Ouais, je pense que ça on l'aura toujours. Malheureusement, ça je l'ai toujours quand je vois les d'autres personnes travailler et tout, je me dis est-ce que je suis capable de faire ça, alors que si je le fais, je vais y arriver, mais on a toujours ce petit truc de dire est-ce que j'en suis vraiment capable ou est-ce que je suis vraiment à ma place de faire ça.
Est-ce que tu as des demandes principalement du Québec mais aussi des États-Unis?
Partout, j'ai une potentielle ouverture de boutique qui pourrait se faire à Columbus dans l'Ohio. Donc
tu partirais là-bas.
Ouais. Bon, après c'est aux compagnies. Les compagnies n'y pensent pas toujours, qu'il faut payer les frais de déplacement, les frais de logement, etc. Mais généralement oui, c'est ça. C'est les compagnies s'occupent de tout. Moi je me déplace, on part sur des journées de travail normales et puis on voit toutes les bases et je montre vraiment ma façon de travailler et aussi j'essaye au maximum de m'adapter à leur production. Les derniers consultings que j'ai fait, les gars ils faisaient plus de 140 pâtons par jour, donc c'est très très gros. Dans une boutique normale on va en faire 8 à 10 par jour, on va dire.
Et là ils faisaient 140.
Ouais, ils en faisaient 140, donc ils produisent énormément pour les métros, pour leurs boutiques, etc. Donc je vais pas leur dire les gars faites comme ça alors que moi j'en faisais 8 par jour. Je vais essayer d'adapter au mieux pour que eux sortent un produit de meilleure qualité tout en étant logique dans la façon de travailler. Je vais pas te montrer comment faire un croissant en mode dinette, on va dire là.
Si tu leur doubles le temps de production.
C'est ça. Donc il faut que j'arrive avec une bonne logique de travail pour pouvoir les aider un maximum.
Alors qu'est-ce que tu commençais, la façon de travailler différente quand t'as 140 et 8?
Bah, ça va être au niveau des tailles des croissants. On va chercher sur des croissants un peu moins longs à rouler. On va essayer de travailler un maximum aussi avec le froid pour pouvoir moins s'embêter avec la pâte. Et puis, c'est d'avoir une meilleure rotation aussi avec le personnel. Il y en a un qui étale, il y en a un qui découpe, il y en a un qui roule. C'est une organisation à trouver finalement et à s'adapter aussi avec le personnel qu'il y a de disponible.
Et les connaissances du personnel aussi.
Exactement. Parce que bah, pour en revenir à cette compagnie-là, le personnel était quand même bien formé, mais c'était vraiment pour essayer de trouver des meilleures solutions et aussi revoir les recettes, etc., pour adapter ça au mieux pour eux.
Donc, dans ce cas-là, combien ça dure la consultation?
Le minimum, ça reste sur 3 jours. C'est 2 à 3 jours suivant ce que les compagnies ont envie de voir, suivant ce que les chefs ont besoin d'apprendre. Moi, je vois comment ils travaillent. Donc, on va dire, j'ai plus une première journée d'observation où je regarde leur méthode de travail. Et puis ensuite, moi, je lance aussi des pâtes pour leur montrer la différence avec ma recette et la leur. Et ensuite de ça, le deuxième jour, on va continuer un peu la production. On va essayer de voir les correctifs qu'on a fait. Et la troisième journée, ça va être on va cuire un peu tous les produits qu'on a réalisés et se dire, bon, ben voilà, maintenant, vous avez réglé votre pousse, vous avez réglé votre cuisson, vous avez réglé votre pétrissage, etc. Donc maintenant, à vous de vous adapter là-dessus.
Et la demande, elle est forte.
J'ai des demandes. J'ai quand même pas mal de demandes, mais un peu comme tout, je pense que les gens ne se rendent pas compte du prix, malheureusement.
Ouais, parce que là, il y a quand même une spécialisation, ouais. Une technicité. Ouais.
Et en plus de ça, d'après certains confrères, mes prix ne sont pas non plus hyper élevés. Justement, ils me disent tous que c'est un peu trop bas pour le savoir que j'ai à transmettre. Mais j'ai quand même beaucoup de demandes. Je dirais que j'ai 2 ou 3 demandes par semaine. Mais sur ces 2 ou 3 demandes, sur un mois, on va dire, sur une dizaine de demandes, je vais avoir qu'une seule réponse qui va aboutir. Donc là, c'est pour ça que j'ai laissé les gens venir vers moi. Ces 3 premiers mois, parce que ça fait depuis que janvier que j'ai commencé, puis j'ai déjà eu quand même pas mal de contrats. Et moi, là, mon but maintenant, c'est de référencer toutes les entreprises au Québec et au Canada et écoles qui pourraient potentiellement être intéressées par mes services et puis que je vais démarcher pour pouvoir travailler avec eux.
Et puis j'ai vu aussi que, parce que tu as un site internet, j'ai vu oui. que tu vendais des recettes. Ouais. Alors là, on parle de gâteaux de voyage, de cakes, ouais. Tout ça. Là, ça s'adresse à qui ces recettes?
À tout le monde. On va pas se mentir, encore une fois, les recettes de croissants, il faut quand même, si on veut faire ça à la maison, il faut quand même avoir un minimum de base. Donc même si je détaille un maximum mes recettes, il faut quand même gérer un peu le truc. Après, tout ce qui va être des recettes de cake, etc., ça c'est quand même pour tout le monde. Mais que je le mets bien dans mes recettes, c'est des recettes qui sont facilement adaptables pour de la petite ou pour de la grosse production. Ça, c'est des recettes que je faisais en entreprise. Donc des recettes, je faisais pas que un cake avec, j'en faisais 50, par exemple, si on prend l'exemple des cakes. Donc c'est des recettes qui sont produisibles en production en entreprise. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde et j'ai des commandes de partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand je vois les adresses des gens qui ont commandé, j'ai vraiment du genre, j'ai eu de la Colombie, j'ai eu de la Thaïlande, j'ai eu de l'Angleterre. J'ai vraiment tout le monde qui achète ça et je suis super content, c'est trop bien.
Là, donc, tu les vends en plusieurs langues, tes recettes?
Ouais, j'ai fait français et anglais pour commencer, classique. Bah, je pense que ça suffit. Et puis, à côté de ça, là, j'ai tourné des vidéos de formation. Donc là, vraiment, ce que je vends, c'est les recettes PDF. Donc des recettes écrites avec des petites images, etc. Et là, il va y avoir la vidéo de formation où on me voit moi faire la pâte à croissant, faire des croissants, faire des chocolatines et faire des brioches. Et là aussi, ça va être achetable par tout le monde. Et puis il y aura du français, il y aura de l'anglais. Et puis voilà.
Alors, je suis un peu curieux. Tu nous dis les gens ils sont surpris par le prix. Mes confrères disent que je suis passé cher. Tu charges à la journée,
Charge à la journée, ouais. Ouais.
Alors, c'est combien?
Là, moi, mes prix actuels, c'est environ 500$ canadiens la journée.
500$ pour une
ouais,
journée.
Ouais.
Et les gens, ils trouvent que c'est cher.
Ouais.
Pour une journée de 10 heures.
Non, 6 à 8 heures.
6 à 8 heures.
Et pour les gars, là, ici.
Il y en a qui me répondent pas. Bah, en fait, à chaque fois que j'envoie le devis, ils répondent pas.
C'est quand même fou que ouais. tu m'aurais dit 2000. J'aurais dit, bon, ok, ouais. Je commence non, à réfléchir.
Ouais.
Et tu me dis 500-600$
ouais.
Et les gens ils te disent c'est
trop
cher.
Ils me disent oui, ils me répondent tout simplement pas. Donc pour moi je le prends que pour eux c'est trop cher. Mais je pense
c'est,
pas, je pense pas
même,
qu'il...
C'est quand même ouais, hallucinant. Parce que
du conseil général, généraliste, pas spécialiste mais généraliste, c'est 100$ de l'heure, 100$ ouais. canadien de l'heure.
Ouais.
Donc tu es déjà en dessous de ça. Ouais. Pour du spécialiste, on est plutôt à 150, entre 150 et 180. Ouais. Donc t'es ouais.
Je sais que mes tarifs sont bas, en même temps, je me dis je commence dans ce domaine-là, même si ce n'est pas la viennoiserie que je commence, c'est vraiment je commence le consulting, on va dire. Donc je me suis dit je commence avec ces tarifs-là. Après, bien sûr, dans l'avenir, j'aurais envie de les augmenter. Mais oui, pour l'instant, j'essaie de partir là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas envie de rester que sur Montréal. J'ai vraiment envie de partir aussi en Ontario, aussi à Vancouver et démarcher des compagnies là-bas parce que je pense que eux sont peut-être plus ouverts, je sais pas, ou même aux États-Unis.
Mais les mecs, pour, peut-être qu'ils pensent que t'es pas assez sérieux avec ces prix-là.
Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Ils disent, attends, 500 dollars, c'est pas un spécialiste.
Je sais pas. Mais moi, c'est tellement dur de savoir les prix.
C'est possible, c'est compliqué de ouais, démarrer une compagnie.
C'est très compliqué.
Et de fixer les prix. Mm-hmm. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur.
Exactement.
Et dire, attention, je suis 500 dollars. Alors là, t'as tous les gars qui ont aucune idée de.
Ouais, bah,
aucune idée
ça,
du prix, parce que ce que ça représente, parce qu'il y a quand même un savoir-faire énorme là-dedans. Et puis, peut-être que tu aurais plus de demandes si tu augmentais tes prix.
Allez, c'est ce que je vais faire.
Allez, go.
Conclusion, dépêchez-vous de, de contacter Julien avant qu'il augmente ses prix.
Avant que je change d'avis.
C'est idiot, mais des fois, je pense que c'est ce qu'il peut dire à quelqu'un.
Ouais,
peut-être que c'est pas assez cher, qu'est-ce qui se passe. Et aller dans une catégorie au-dessus, ça permet de dire, ce plus, gars-là, c'est reconnu.
Je pense qu'il faut aussi être à l'aise avec ses prix. Et puis,
il faut être à l'aise, de toute façon. Mais c'est à considérer.
Je me sens pas encore.
Parce que là, tu es peut-être dans une catégorie où il y a beaucoup de crétins qui disent « Ah ben non, c'est trop cher. »
Ce n'est pas des crétins, c'est juste que tu ne sais pas. Tu vas payer tes cuisiniers ou tes pâtissiers à 18 dollars de l'heure.
Quand tu vends du croissant, quand tu vends de la pâte feuilletée, que
c'est rentable.
C'est super rentable. Tu vois des pâtissiers qui marchent bien, ils investissent un petit 1500 dollars sur 3 jours, et tu sais que ça va révolutionner la façon dont tes employés travaillent. C'est vite rentable. En une semaine, tu le rentabilises.
Je suis d'accord, mais c'est plus un manque de. T'attends pas à ces prix-là.
Je pense qu'il faut remettre des choses en place. Aujourd'hui, le savoir, ça se paye.
Je pense que quand t'entends parler Julien de toute la technique qu'il y a derrière ces trois petits ingrédients,
tu comprends pourquoi
il y a du savoir-faire et tu comprends pourquoi
Aujourd'hui, tu vas dans une pâtisserie de base, ton croissant il a combien?
Ah, il va être à
2,50
et 3 dollars. 2,50, 3 dollars à peu près.
Alors là, en plus, toi, tu fais un cube croissant.
Oui,
ça c'est la mode.
Ça, c'était pour l'expérience.
Ça, c'est la grande mode.
J'ai acheté une petite moule ouest et c'était rigolo.
Est-ce que c'est intéressant, ça, au niveau... Parce que ça développe moins.
Non, ça va, ça développe bien. Il suffit de bien jauger ses quantités à l'intérieur, mais ça développe bien. Après, là, les moules, ils sont vraiment tout petits. C'est vraiment de la petite pièce que j'ai là. Mais c'est sympa. C'est pour faire des petits tests. Après, encore une fois, ce genre de produit à mettre en production, t'en fais 12 par jour, mais tu peux pas en faire plus, quoi. C'est trop. C'est un peu trop
complexe. Il faut faire une forme. Alors, on parle des
cubes croissants.
Une petite mode qui est apparue sur les réseaux sociaux. Ou en fait, c'est genre des petits cubes de pâté en croûte, des petits moules de pâté en croûte, et tu mets ta pâte feuilletée dedans.
Ouais, exactement, puis qu'on laisse pousser comme une pâte à croissant normale.
Et puis ça fait un croissant en forme de cube.
C'est joli parce qu'on voit bien les feuillets et tout sur les côtés, les petits étages et tout, on voit bien ça. Mais c'est sympa. Après, c'est plus un truc de réseaux sociaux, c'est un peu trop compliqué à mettre en boutique, à moins qu'on ait vraiment une forte demande et une bonne équipe derrière.
Tu le vends à 10 dollars, ça.
Ouais, tu le garnis et tu le vends à 10
dollars. Ah, mais justement, là, ça flingue un peu ton image prix.
Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, tu vas en pâtisserie. Une pâtisserie de base, c'est 6,50 de base.
Dans une qualité.
Très moyenne. Approximative. Donc, quand tu veux aller dans la qualité, que tu fais des beaux produits et tout. Tu connais mon attrait pour la pâtisserie, Maïk. Tu sais que 500 dollars, moi...
Oui, mais je sais que tu es aussi le premier à râler quand tu payes trop cher pour une pâtisserie.
C'est sûr que quand je vais dans une pâtisserie que je connais pas et que je paye 9 dollars un gâteau et que je suis
moyen,
un peu déçu, je suis dégoûté.
Totalement.
Donc, je réfléchis, je regarde les avis avant d'aller dépenser 9 dollars dans une pâtisserie.
Ouais.
Aujourd'hui,
c'est normal.
C'est les prix.
Et encore, on n'est pas à Paris à acheter des gâteaux à 25 dollars canadiens.
Oui, mais bon.
Ouais.
Ouais. Donc, ça évolue beaucoup, les desserts, les pâtisseries, les viennoiseries.
Quel est... j'ai retrouvé ma question. On vient d'en parler, là. Quel est l'impact des modes des réseaux sociaux sur le travail des pâtissiers? Est-ce que ça a un vrai impact Ou est-ce que c'est genre une petite mode qui va durer 3 semaines et puis on va le faire pour s'amuser, pour faire un peu de trafic.
Les produits en général, genre le croissant cookie par exemple.
Le croissant cookie.
Oui, bah c'est ça. C'est les gens, ils vont le faire et ça va durer un mois et puis ils vont se lasser. Hein. C'est certain. Les réseaux sociaux, c'est comme ça. Hein. Ça va vite. Il y a une mode qui arrive. Surtout sur les, j'ai l'impression, surtout sur tout ce qui va être pâtisserie ou viennoiserie hyper décadente, ça va durer un mois, puis après ça va passer. On va trouver autre chose.
On a eu les cronuts, on a eu le croissant cube.
Ça a bien vécu, par exemple, les cronuts, parce que je sais qu'il en fait toujours, là, Dominique Ancel, à New York, là.
Mais c'était un des premiers trains.
Ouais, vraiment, c'était.
Il y a 10 ans, je pense.
Je me rappelle, je venais d'arriver ici quand on en parlait beaucoup.
Il y a des line-up encore. Hein.
Ouais, il y a des line-up, ça m'étonne même pas. Hein. C'est parce que, en plus, ça, c'est très bon. Donc, mais tout ce qui, en ce moment, je pense que on va revenir, c'est un peu bête, mais c'est un peu comme les vêtements, les modes, elles passent très vite. Mmh. Et c'est pareil pour la viennoiserie, pareil pour la pâtisserie, ça doit toujours changer. C'est celui qui va au plus décadent, celui qui va au plus instagrammable, machin, qui marche, mais ça dure pas longtemps.
Un bon classique, un bon croissant au beurre.
C'est ça, croissant, machin, ça va rester tout le temps. Ça restera tout le temps, c'est indémodable.
Alors, on était sur le millefeuille tout à l'heure, un bon croissant à Montréal.
En endroit.
Ouais.
Je vais pas dire chipotier à chaque fois.
Tu dis plus chipotier.
J'arrête. C'est mes anciens collègues, ils vont être contents.
À part potier.
Je dirais la boulangerie au Petit Paris. C'est très costaud. Ouais, très costaud. Ils sont très forts. Julien Meunier, le responsable viennoiserie, qui fait du super super bon travail.
Ouais, c'est une équipe de jeunes. Ils ont une bonne baguette aussi.
Ils sont partout et c'est vraiment un super truc. Bah, petite histoire, j'aurais dû travailler là-bas si je m'étais pas lancé.
Ok.
J'avais eu un accord avec eux pour travailler. Puis c'est là où je me suis dit est-ce que ce serait pas le temps de me lancer tout seul? Donc, je les ai contactés pour leur dire que finalement ça allait pas se faire. Et puis ça s'est très très bien passé avec eux. Donc, c'était super. Sinon, pour en revenir au croissant, ceux du Toledo sont quand même aussi assez réputés. Ils sont quand même bons. Je dirais la boulangerie Jarry aussi. Je dirais pas ça parce que j'ai fait un consulting chez eux, mais ils sont quand même très bien.
Surtout depuis que t'es passé.
Oui. Et puis là, plus récemment, je dirais Feuilleté Café, hein, qui s'est ouvert l'année passée avec
ça,
Frédéric Lévesque. Je saurais pas comment dire où c'est. C'est dans Rosemont. Dans Rosemont, c'est un petit café, elle est hyper jeune, elle a gagné le concours de meilleure apprentie chocolatière l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Elle a travaillé chez Patrice, et puis elle a 21 ou 22 ans, puis elle a ouvert son truc, et c'est super bon, quoi. Elle travaille ça super bien.
Ça s'appelle comment, rappelle-moi?
Feuilleté Café.
Ok, bon, une adresse. Ouais,
une petite adresse, elle fait pas beaucoup de produits, son café est pas très grand, mais ça suffit, en fait. Elle a compris. Pour moi, elle a compris, les produits sont beaux, les produits sont bons.
École Patrice, micro-boutique.
Exactement. J'espère qu'elle va continuer à bien progresser.
On revient maintenant sur le côté professionnel.
Ouais.
Tu viens de monter ton nouveau business.
Oui.
T'as fait quoi? C'est ta décision, travailler pour toi. C'était quoi ton plan d'affaires? T'as fait un plan d'affaires?
Pas spécialement. Je me suis un peu lancé comme ça. Je suis très pâtissier, pas axé sur les papiers, pas axé sur la communication. J'ai un peu du mal encore avec ça.
Comme beaucoup de professionnels.
Je connais pas du tout ce domaine-là. Donc j'ai été super bien aiguillé aussi par ma conjointe qui m'aide énormément, qui m'a fait mon site web et qui m'aide aussi pour les démarches pour pouvoir.
Très beau site web.
Merci. Elle sera contente de l'apprendre. Et c'est elle qui bosse là-dedans et qui m'aide aussi à communiquer en B2B, je vais parler comme un patron pour contacter les compagnies. Donc elle m'aide énormément là-dessus. Et non, pas spécialement le plan d'affaires. Bah, je me suis donné des deadlines, on va dire, en disant, bon, à partir de mars, si je vois que j'ai plus de demandes, je contacte. En mars, je voulais aussi avoir ma vidéo en ligne de formation qui va aussi me générer pas mal de revenus, normalement, si tout se passe bien. Donc, après, pas spécialement de plan de match.
Ta formation en vidéo, ça coûte combien?
Je suis en train de... Hein?
Ne me dis pas 100 dollars, s'il te plaît.
Je vais me faire engueuler.
Mais
si, c'est ça.
Mais non, tu peux pas faire ça.
Mais c'est pas des grandes vidéos, je vous montrerai après un petit peu ce que ça donne.
Il va falloir
un pourcentage, c'est ça?
Oui, mais carrément.
On va devenir tes agents, on prend 10%,
c'est bon.
On te prend de 50%.
C'est encore un peu dans le flou, ça va. Bah là, j'attends encore mon vidéaste qui m'envoie tout ça et après je vais y réfléchir, mais c'est tellement dur de se jauger et de mettre des prix parce que...
C'est super dur.
C'est hyper dur. J'ai pas envie de paraître dans le trop. J'ai pas envie de. Je préfère en vendre plus que pas assez. Donc, c'est hyper compliqué de jouer.
Super compliqué.
Je vois ce que les autres font. Je vois, j'ai regardé, bien sûr, ce qu'il y a d'autres comme service sur des plateformes comme Udemy ou ce genre de trucs, des personnes qui vendent leurs cours de viennoiserie. Et c'est quand même très peu cher. Je trouve que c'est très peu cher. Après, je vais pas vendre le même service qu'eux. Je vais essayer de vendre un service avec des valeurs ajoutées. Donc, il y a pas que mes vidéos. Il y aura aussi un document qui fait, je crois, 30 ou 40 pages qu'on a fait pareil avec ma conjointe. Qui décrit le genre de matériel à avoir, qui décrit comment déguster un croissant, qui décrit plein de choses pour que la personne qui achète cette formation-là, elle se dise « Ok, si je m'entoure bien, je peux ouvrir un secteur de viennoiserie dans mon entreprise ou je peux améliorer la qualité de mes produits. »
Comment déguster un croissant?
C'est important.
Pas vraiment.
C'est le feuillage. Comprendre ce que c'est un bon feuillage. Comment reconnaître un bon produit.
Comment savoir
que tu as fait un bon produit à la fin.
Exactement. C'est... sur ma fiche, il y a marqué un test un peu organoleptique, quoi, finalement, du croissant. Genre, qu'est-ce que je dois regarder et qu'est-ce que je dois comprendre pour savoir si mon produit il est bon ou pas. Donc oui, on regarde les feuillets, on regarde s'il y a de la matière grasse, on va le sentir. Et toutes ces petites catégories-là sont sur un tableau, finalement. Et les gens, ils peuvent se dire, OK, ça c'est bon, ça c'est coché. Maintenant, je peux me dire que j'ai un bon produit.
Ouais, ben 100 dollars pour un truc comme ça, excusez-moi.
Je vais augmenter les prix alors.
C'est pas cher.
Tu peux jauger, tu peux faire OK pendant 3 semaines, tu fais un prix de lancement.
Oui, ça peut être ça aussi.
Si ça marche très très bien, tu peux dire c'est pas assez cher clairement.
Ouais. C'est mieux de faire, je pense, hein. Mais je pense que c'est mieux de dire OK, je vais le vendre 150 $ et allez OK, je vous fais une offre spéciale et je vous la vends 100 $. Et là, quand tu vois, tu enlèves ton offre spéciale et tu la remets à 150.
Encore une fois, c'est mon syndrome de l'imposteur, mais c'est que.
Mais bien sûr, on l'a tous.
Je me demandais pas pourquoi, mais je me sens pas crédible de vendre ça plus cher, alors que certainement que ça les vaut, très certainement.
C'est sûr et certain.
Bon, on va déguster les
brioches
et puis on va dire écoute, 50 balles.
Finalement, fait 70% de rabais.
Pour ceux qui nous regarderaient pas sur YouTube, il faudra que vous regardiez notre Instagram parce que c'est magnifique.
Ouais, Julien est venu avec deux.
Alors, t'as fait ça ce matin?
J'ai cuit ça ce matin, en fait. Là, j'étais chez le tout premier consulting que j'ai fait, Bar à Croissant à Belœil. Donc c'est un très bon ami à moi, et de temps en temps, en fait, je vais chez lui pour faire un peu de contenu pour moi et pour aussi le voir et puis faire des tests comme là par exemple. Donc on a fait ça vendredi, puis bon, c'est de la viennoiserie, donc j'ai gardé ça cru au congélateur, et puis je me suis dit bon, mais c'est l'occasion parfaite pour vous faire goûter ça. Donc j'ai gardé ça, puis ça a poussé et ça a cuit ce matin. Ouais.
Donc là, tu utilises un four
c'est à la maison. C'est un four à convection à la maison. J'ai quand même ma petite ventilation là dedans, mais
quelle température?
J'ai cuit.
Ouais.
À 330 Fahrenheit, c'est à peu près 160 degrés Celsius.
Pendant
une bonne trentaine de minutes. Ouais.
Voilà, on n'a pas parlé des fours aussi.
Les fours,
les chambres de pousse, il y a les laminoires, il y a plein de choses.
Est-ce que utiliser un rational, c'est bon
C'est le mieux.
Tu mets un peu d'humidité
dans le four?
Dans le rational?
Non, pas spécialement. Non. Je laisse le truc à 100%, mais le petit indicateur d'humidité, je le laisse à 100% parce que justement.
Mais pas en mixte.
Non, je le mets en sec et je garde le truc d'humidité à 100% parce que si on le met à zéro, justement, le four va chercher à enlever toute l'humidité.
Okay.
C'est là qu'on va avoir un produit hyper sec. Mais même en le laissant à 100%, quand on reste appuyé sur le petit bouton, là, on voit le taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur. Ça va jamais jusqu'à 100%. Donc, c'est vraiment pour éviter que le four cesse à dessécher le produit. Si tu vois.
Ok, ouais, je vois. Okay.
Ouais, le rational, c'est quand même le mieux. Après, en production, c'est pas les meilleurs, on va dire, parce qu'il n'y a pas énormément de place à l'intérieur, dépendamment de la taille du rational. On a des rationales, ça va aller jusqu'à 10 à 8 places. Ça reste quand même correct, mais les mieux, c'est quand même les fours où on peut balancer des échelles à l'intérieur et que l'échelle, ça cuise tout seul, quoi. Ouais. C'est le mieux.
Et donc là, pâte à brioche.
Ouais,
t'as rajouté des œufs.
Ouais.
Donc c'est une pâte à brioche feuilletée.
Ouais, c'est ça. On va dire que c'est plus une pâte à croissant de base dans lequel on va remplacer une partie des liquides par des œufs, et il y aura dans la détrempe. Je parle dans la détrempe.
Okay.
On va rajouter des œufs à l'intérieur et on va retirer du liquide, que ce soit de l'eau ou du lait.
Ouais.
Et on va avoir un premier pétrissage à vitesse lente qui va durer à peu près 5-6 minutes, qu'on appelle le phrasage, histoire que la pâte s'amalgame un petit peu. Et ensuite de ça, on va rajouter une certaine quantité de beurre, et puis on va pétrir ça vraiment pareil qu'un croissant finalement. Mais vu qu'il y a plus de beurre à l'intérieur, on
assimile
ça
plus. Toujours dans la détrempe.
Ouais.
Et après, tu fais tes tours.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, il y a un tour double et un tour simple. Il y a
beaucoup moins de tours, donc.
Il y a beaucoup moins de tours dans les croissants que dans le feuilletage régulier.
Okay. Ouais, parce que tu veux pas que ça.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis on veut justement ces beaux feuillets, etc., qu'on n'a pas sur le feuilletage. Ouais.
Donc sur une pâte feuilletée, tu as 5 tours.
Ouais, 5
sur un croissant,
t'en as 2 ou 3.
Pareil que sur ce.
Ouais, brioche feuilletée, on est sur donc là un tour double, un tour simple, et sur une pâte à croissant, ça dépend des produits qu'on fait. Mais on peut faire 2 tours simples, ou alors un tour simple, ou même 2 tours doubles, ou 3 tours simples. C'est vraiment à l'école de chacun. Là,
il y a du chocolat dedans.
Ouais, j'ai mis des petites barrettes de chocolat, de bâtons de chocolat, chocolatine. C'est des petits bâtons chocolat que j'ai mis à l'intérieur, histoire de donner un peu de.
Et un petit peu de sur-dessus pour
un petit peu de sirop, ouais, pour que ça brille, pour que ce soit joli. Ouais, c'est ça, à la sortie du four, comme ça, ça s'évapore, ça évite que ça colle au doigt. Et puis,
Très, très beau, en tout cas. Je ne sais pas combien ça se vend, ça, en magasin.
On est obligé de goûter, Pascal. Hein.
Hein,
on est obligé de goûter.
On va sacrifier, on va sacrifier contre vous, bien sûr. Vous savez, on est toujours en première ligne.
Quel triste métier.
C'est dur, c'est dur, la vie.
C'est très, très dur.
Merci beaucoup Julien.
Ouais,
merci avec d'être plaisir. Venu avec ces belles pâtisseries. Merci de nous avoir partagé une partie de
avec
ton savoir-faire.
Grand plaisir, c'était super.
On va sacrifier, peut-être qu'un jour on viendra faire un tour à un de tes ateliers parce que c'est quand même important de voir aussi ce qui se passe sur le terrain.
Merci au MT Lab qui nous a reçus, le MT Lab de Montréal. Si vous voulez nous soutenir, on est sur Patreon. Si vous voulez suivre ce qu'on fait, on est sur Instagram. Si vous voulez voir cette vidéo, on est sur YouTube. Ciao, restez dans le jus.
Bye bye.